toutes et à tous, vous êtes bien dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative sur Radio Campus Amiens 87.7 FM et également disponible sur le DAB+ et radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Louis Tessidou,
bonjour,
enseignant d'histoire à Amiens. Comment vas-tu ?
Très bien, très bien.
Pour commencer, est-ce que tu peux brièvement te présenter et nous expliquer la raison de ta présence ici ? Tu es venu nous parler de ton dernier sujet de recherche, il me semble.
Oui, bonjour. Oui, je suis enseignant à Amiens, à la cité scolaire et à l'université. Et aujourd'hui, je viens parler d'un projet associatif parce que c'est l'écho de la bête qui porte le propos. On commence un peu à s'aventurer dans le milieu de l'édition. Et on va éditer les carnets de guerre d'une religieuse à Amiens qui était présente de 1914 à 1918.
Et donc tu fais une thèse, il me semble, sur la patrimonialisation. Je prends le temps parce que j'ai pas envie de bafouiller sur des deux usines catholiques Cossera. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est ?
Les usines Cossera, on a deux usines textiles, une à Saleux qui a été créée en 1838 et une seconde qui était à Amiens et qui est la plus connue, qui a été créée en 1857. Et tout le propos aujourd'hui, au niveau de ma thèse, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai décidé d'arrêter, enfin les bandes chronologiques s'arrêtent en 2001 quand l'usine d'Amiens est inscrite en partie au monument historique, qui fait qu'aujourd'hui, elle est encore debout. Hein. Mmh. L'usine de Saleux a été inscrite il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est un travail qui essaye de comprendre la chute d'un empire industriel et comment la ville d'Amiens, les habitants, le département réagissent par rapport à ça.
Et donc, qui sont les Ursulines ? Je voudrais que tu nous expliques un petit peu le rapport du coup avec les usines catholiques.
Alors, les usines catholiques, les Cossera avaient une politique paternaliste où ils encadraient la vie de leurs ouvriers et de leurs cadres. Et ils sont de confession catholique, donc ils vont passer des contrats avec les sœurs de la charité des pauvres, qui sont des religieuses et qu'on peut apercevoir dans certaines pièces de l'usine ou dans le patronage Cossera. Et benoîtement, moi, il y a quelques années, je croyais que c'était des Ursulines qui œuvraient chez les Cossera. Et en fait, je me suis trompé. C'était des sœurs de la charité des pauvres, sauf que je me suis aperçu de mon erreur au couvent de Beaugency. Et au couvent de Beaugency, on a toutes les archives des Ursulines.
Oui, j'ai lu que tu avais du coup découvert voilà. Quatre petits carnets rédigés par une Ursuline.
Voilà, et en fait, je suis pas reparti bredouille, je suis même retourné pour les numériser intégralement. Mm-hmm. En fait, les Ursulines sont des sœurs qui sont un peu comme les jésuites, le fer de lance pédagogique où les jésuites font de l'éducation aux garçons. Les Ursulines, c'est l'éducation pour les filles. Mmh. Elles sont arrivées à Amiens en 1660, enfin un peu 1616, je crois.
1500, 1600.
Ouais, 1600. Et tout l'intérêt des carnets, c'est qu'en 1904, elles vont être chassées d'Amiens avec la loi sur les congrégations religieuses. Elles quittent Amiens. Elles vont s'installer pas très loin en Belgique, à Croix, mmh. où elles continuent de faire ce qu'elles ont à faire. Et en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Les Allemands avancent et arrivent à Croix. Et elles quittent ce château qu'elles occupaient. Et elles reviennent à Amiens et elles ne pensaient jamais revoir Amiens. Donc en fait, il y a la redécouverte, le retour à Amiens, ce qu'elles appellent leur patrie, parce qu'elles l'ont occupée pendant des siècles. Et on a donc une femme religieuse, sœur, qui tient un carnet de bord tous les jours. Elle écrit ce qu'elle voit et elle écrit ce qu'elle fait.
D'accord. Donc un vrai journal,
journal intime,
de l'époque et en temps de guerre, du coup.
En temps de guerre, oui. En temps de guerre, on a la vision d'une femme. Je pense que c'est aussi l'histoire des Amiénoises au final. Mmh. Et on a quelqu'un qui est extrêmement, qui a une écriture intelligente parce qu'elle sait qu'il y a énormément de rumeurs. Elle le précise, elle explique qu'elle a des sources, que ce qu'elle raconte, c'est ce qu'elle a vu, qu'elle sait qu'il y a des mensonges, que la presse et les communiqués officiels ne sont pas fiables, et elle va écrire ce qui se passe à Amiens, ce qu'elle fait, et elle souhaite que ça soit utilisé dans le futur pour les Amiénois, les Amiénoises. Elle écrit, voilà, j'espère que ça servira. Donc quand on tombe face à ces petits carnets, il n'y a pas d'autre choix que de les éditer.
Bah, il faut reparler puis se souvenir aussi de ce qui s'est passé. C'est un héritage au final de la guerre, donc il faut le garder.
Ouais, il faut le garder. Et puis, ce qui est passionnant, c'est que c'est extrêmement subjectif. C'est un témoignage d'une femme qui est religieuse, qui politiquement est plus à droite qu'à gauche. Et c'est en ça que ça devient extrêmement pertinent et intéressant. Pour replacer dans le contexte, Alphonse Fiquet, qui est maire de la ville d'Amiens à cette époque, en prend plein son grade parce qu'il est républicain et il est du mauvais côté.
Ouais.
Donc voilà. Mais elle a conscience, à un moment donné, les Anglais ont survolé Amiens, début 1915, et ont jeté des journaux, des exemplaires du Times au-dessus d'Amiens.
D'accord.
Et elle le ramasse et elle voit que le Times, qui est un journal de référence, dit qu'Amiens a brûlé. Et elle dit, on ne peut pas compter sur la presse, même si le Times se met à raconter des bêtises, on est coupé du monde, et ce que je raconte, j'arrête de recopier les communiqués officiels, ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai vécu, et si je me trompe, je reviens en arrière. Donc on a des fois quelques ratures ou quelques retours en arrière dans les quatre carnets.
Elle se reprend par moment, du coup, sur des faits
Ouais, elle se reprend sur des faits, mais elle se trompe rarement. Il y a juste ce qui s'est passé à Lille en août 14, où Lille n'est pas défendue et l'extrême droite française, enfin l'Action française, va tomber à bras raccourcis sur le général qui n'est pas censé avoir défendu. Mais sinon, le reste du temps, sur les atrocités des Allemands en Belgique, sur la vie militaire amiénoise... J'ai tout recoupé, on est dans le bon, quoi.
Ok, on est dans le vrai.
On est dans le vrai, oui.
Bon, ça va alors.
Ça va, ouf.
Tu es passionné de ça. En 2022, tu as publié La guerre de Raoul Berthelet, un livre de photographie d'Amiens. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
J'avais retrouvé ces photos grâce aux usines Cossera. Enfin, bon, c'est toujours mon leitmotiv, en fait, dans ma vie. Mais Berthelet, c'était un officier français qui a résidé 7 mois à Amiens, mais qui était en cantonnement dans l'usine de Saleux, qui était transformée en hôpital militaire.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui le seul connu à avoir photographié les usines Cossera en temps de guerre, les ouvrières, un monde qu'on ne connaissait pas. Donc, je suis toujours très penché sur la photo et la photo m'intéresse beaucoup. Et là, avec le témoignage des Ursulines, ça se recoupe aussi puisqu'on a un photographe qui est resté lors de l'occupation d'Amiens par les Allemands en août-septembre 1914. Qui devait vivre pas très loin d'où étaient les Ursulines. Et on a une vingtaine de photos qui collent à ce que dit à ce qu'écrit l'Ursuline.
D'accord, donc les deux se rejoignent vachement.
Ouais. Elle explique par exemple qu'au boulevard du Maille Albert Ier, il y avait des prisonniers allemands qui défilent, entourés de soldats français. Bon, on a les photos, à un moment donné, elle écrit 4 soldats, un militaire allemand, et on a les 4 soldats français et militaires allemands. On a l'arrivée des Allemands, elle l'a vécu, l'arrivée des Allemands dans Amiens. Enfin voilà, tout ça, c'est pris en photo et ça correspond à ce qu'elle raconte.
Donc des faits écrits et illustrés en plus de ça. Donc tu me disais aussi du coup le projet du journal de guerre d'une Ursuline, pardon. Il est porté par toi et l'association L'écho de la bête. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, par rapport à ce projet? Ça va? Enfin, vous y arrivez?
Ouais, on y arrive, on est toujours les premiers surpris. Là, on est dans le 24e ou 25e numéro de la bête. Si on nous avait dit il y a 2 ou 3 ans quand on a commencé... on serait au 25e numéro, on n'y aurait peut-être pas forcément cru. Donc voilà, et puis en réfléchissant, quand on se fait des petites réunions, on se disait que éditer ou une maison d'édition sur des sujets assez évidents, mais au final peut-être pas trop traités, ça avait peut-être un peu de sens, donc on s'est lancé.
Est-ce que tu peux nous parler du retour de l'Antependium à Amiens? J'ai vu qu'il y avait un appel aux dons qui a été lancé pour que cette broderie soit soit mise au musée Picardie.
Oui, bah c'est, c'est Pierre Stéphanoff qui est le directeur du musée de Picardie qui est plus à même d'en parler que moi. Mais cet antépendium, c'est la broderie qu'on met sur l'autel dans la chapelle des Ursulines, qui était, c'est là tout le mystère, les Ursulines sont parties d'Amiens en 1904. Elles avaient des biens, elles avaient beaucoup de biens. Mon prochain voyage, moi, c'est Paris, aux Archives nationales, puisqu'on a le dossier de liquidation des biens des Ursulines, qui avaient beaucoup de terrain dans Amiens. Le liquidateur judiciaire, ça se passe très très mal, visiblement. Donc, elles sont parties en Belgique. Qu'est-ce qu'elles ont emmené ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'elles ont laissé ? Qui s'est servi, pas servi. Donc, il est réapparu, il a été exposé, le JDA le dit très bien, il y a une petite chronologie là, il a été exposé il y a 20 ans en Belgique. Le propriétaire actuel s'en sépare, mais effectivement, il y aura, il y a l'antépendium, mais il y a aussi d'autres choses. Voilà,
il n'y a pas que ça.
Il y a une petite porte ouverte, peut-être à ouvrir un peu plus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le dossier de liquidation judiciaire aux Archives nationales.
D'accord.
Donc, et ça émaille la presse de 1904 à 1914. Elles avaient des terrains à Saint-Achol, elles avaient des choses en ville. Ça se vend pas. Il y a des annonces, des ventes qui sont annulées. Enfin, voilà, les conditions ont été un peu difficiles. Mais 2024, c'est un peu l'année des Ursulines, avec très modestement mon livre et surtout l'antépendium.
Ouais, ça fait deux belles choses.
Deux belles choses, ouais.
Et justement, pour moi personnellement, c'était pas très clair. Les Ursulines, elles avaient donc une chapelle et un couvent.
Oui.
Mais où se trouvent ces deux monuments
Le premier couvent, c'est l'actuelle gendarmerie des Jacobins.
Oui, d'accord.
Qu'elles ont dû quitter et après elles se sont installées à Sainte-Clotilde.
À Sainte-Clotilde, d'accord. Okay.
Donc voilà, là les Ursulines étaient là et c'est intéressant votre question dans le sens où elles le faisaient court et il fallait qu'elles soient ouvertes sur le monde pour attirer des jeunes filles. Enfin voilà, il y avait quand même une concurrence des écoles, le marché de l'instruction, très rapidement dit. Donc il y a le couvent, il y a le cloître. Et le fait d'être ouvertes, elles sont cloîtrées. Mais en même temps, elles doivent recevoir des enfants pour l'éducation. Et c'est tout le truc, c'est tout le propos des Ursulines. Dans le livre, on le voit très bien, où elles sont à Saint-Cloud, mais elles sont ancrées dans le siècle. Enfin, elles ont, sans dévoiler le bouquin, même si c'est du patrimoine, et on le verra quand il sera sorti, mais elles lancent des expéditions pour aller soigner des militaires. Enfin,
d'accord,
voilà, elles ont fait des choses.
Elles ont bien bougé.
Elles ont bougé, elles se font capturer par les Prussiens qui les libèrent. Donc elles perdent toutes les autos, donc ça a été un gouffre financier au début de guerre. Mais elles soignent énormément de soldats. Il y a des moments incroyables où elles voient des blessures que personne n'a jamais vues. Donc le peintre Émile Maillard, qui habite rue Jules Barnier, qui est le peintre entre guillemets officiel et le peintre de marine, on l'appelle pour qu'il peigne les chirurgiens en train de soigner ces blessures qu'elles ont. Voilà, c'est des choses totalement inédites pour elles. Donc elles cuisinent pour les soldats, elles font des milliers de choses. Elles font des milliers de choses.
Le peintre de marine, est-ce que tu peux développer un petit peu ?
C'est un peintre qui peint très rapidement dit des bateaux et qui était avec le ministère de la marine et qui avait un rôle officiel bien précis. Mais l'Ursuline est cloîtrée, mais elle vit en ville, elle vit dans le siècle. Et elles ont fait des choses, elles ont récupéré des dizaines de soldats, elles se sont... elles ont cuisiné dans la mienne.
Elles se sont bien battues pendant cette guerre.
Elles sont plongées. Et ça se sent dans l'écriture où c'est un quotidien qui est totalement bouleversé. Et elles vont agir en tant que. C'est très patriotique, c'est très guerre de religion où Dieu est de leur côté. Les Allemands sont évidemment du mauvais côté. C'est nationaliste, patriotique, et elles sont persuadées d'être du bon côté du fusil et que Dieu va leur donner la victoire.
Et donc elles ont beau être cloîtrées, elles sont quand même très concernées par ce qui se passe et elles font pas rien quoi.
Non, c'est ça. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'elles font école. Il y a pas mal d'enfants qui viennent dans les murs et elles font classe.
Et à côté de ça, elles soignent les soldats.
Elles soignent les soldats, elles soignent les Allemands. Il y a même des soldats allemands qui tuent les infirmières. Enfin voilà, donc il y a des soldats qui s'entretuent dans le couvent.
L'enfer.
ouais, donc il y a, enfin il y a, oui non, il y a une vie. Et puis on voit Amiens, elle se promène quand un officier les prend pas en pitié, c'est pas le bon terme, mais leur donne des sous pour aller acheter des chaussettes, des bas et du tissu. Bon, bah, elle explique comment elle se balade dans Amiens. Elle va dans le grand magasin Vanifiqué, qui était de mémoire dans le centre-ville, mais je n'ai plus le nom de la rue. Mais on voit Amiens, on voit des grandes familles amiénoises qui viennent les voir. L'évêque d'Amiens vient les voir. Elles vont à droite, elles vont à gauche. Elles sont en contact avec l'Angleterre, parce que certaines Ursulines sont parties en Angleterre. Donc il y a des lettres qui arrivent. Enfin, on vit au jour le jour. Et on découvre Amiens, qui n'est pas encore détruit et qui
est bien occupé.
Bien
déjà.
Occupé, ouais.
Ouais. une question un peu plus personnelle, qu'est-ce qui t'intéresse dans la patrimonialisation? Pourquoi tu aimes faire des recherches par rapport à ça?
Moi j'aime bien chercher. On a sur Cosserin un fonds d'archives de 120 mètres.
D'accord.
D'archives inédites, jamais ouvertes, 1838-2008. Donc il y a un terrain de jeu totalement dingue et encore plus dingue, on a une usine, enfin il y a deux friches industrielles, un passé industriel, mais derrière ce passé industriel il y a un passé, la mémoire du travail, il y a la mémoire industrielle, la mémoire de gestes professionnels. Je sais pas, enfin je me revois quand j'étais étudiant, je n'aimais pas l'histoire économique, je n'aimais pas le velours. Mais ça dépasse, je sais pas, c'est très psychanalytique comme question. Mais non, j'aime bien, voilà, quand même, l'état des deux usines Cosra quand même pose question.
C'est un terrain de jeu un peu pour toi, enfin un terrain de découverte, quoi, j'ai envie de dire.
Oui. Là, grâce au travail qu'on mène avec mon autre association sur cette usine, on a quand même redécouvert 300 planches d'impression Bonvalet.
D'accord.
Où au XVIIIe siècle, on imprimait à la planche avec une espèce de grand tampon encreur. Mm-hmm. Donc nous, là, on a donc 300 planches, 300 motifs faits par des Aminois avec la manufacture royale Bonvalet.
Qui date de quand à peu près?
1755-1900.
Des vieilles imprimées, des vieilles...
Oui, c'est des vieilles planches de bois avec des motifs... incroyable en termes de savoir-faire technique et au niveau de la mode.
Mmh.
Là, on est en contact, je ne veux pas tout dire, mais au métropole, au Met, là, à New York, au grand musée américain, on a des livres qui correspondraient peut-être au motif.
D'accord.
Okay. Puisque là, pour le coup, ce qui est quand même franchement intéressant avec la patrimonialisation, ça n'est pas un mot facile à dire, mais c'est que l'usine, enfin la manufacture Royale Bonvalet, on a... des archives aux archives départementales sur la période grosso modo 1900-1960, mais sur 1800 on n'a rien.
D'accord. Donc,
donc après voilà, c'est l'histoire des archives d'entreprise où aujourd'hui les gens sont sensibilisés, il y a des obligations légales.
Oui.
Voilà, pour peu que voilà, on soit pas sur une entreprise qui soit à fond sur l'histoire, les papiers ont été détruits. Bon, par contre, on a récupéré nous la lettre de Napoléon. Qui est venu à Amiens en 1803 et qui a visité cette manufacture. On a retrouvé la lettre à la Fondation Napoléon. Mais c'est quand même dingue qu'aujourd'hui, on ait une manufacture royale à Amiens. Comme on dit toujours avec Philippe Dessin, avec qui je travaille sur le sujet, c'est un peu sous le boisseau, quoi. C'est un peu une mémoire endormie, mais la mémoire, elle est là. Et dans les placards des Amiénois, dans les greniers, là, les 300 planches étaient dans une cave depuis 50 ans.
Ouais, donc il faut vraiment aller fouiner.
C'est le bouche à oreille, il faut aller fouiner. Et puis, voilà. Moi, là, je vais à Lyon au Congrès international des historiens de l'art au mois de juin 2024 pour communiquer sur ces planches. Si on nous avait dit ça il y a deux mois, on n'y aurait pas cru. Là, on échange avec New York en ce moment où il y a ces fameux livres. Donc, à voir.
Il y a de l'intérêt derrière.
Ouais, tout à fait.
Moi,
ouais.
Bon, ça, c'est chouette. Tu es donc enseignant d'histoire, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la recherche? Tu as refait un doctorat, il me semble.
Oui, ouais, j'ai repris mes études. Bah, c'est l'usine Cosra. Moi, j'étais un étudiant lambda. J'ai passé les concours de l'enseignement. Moi, je pensais absolument, enfin, j'aurais jamais pensé il y a 3 ans reprendre, ou 4 ans reprendre mes études. Mmh. C'est que, ben voilà, il fallait le faire. Alors, je l'ai fait.
Il fallait le faire, mais t'en avais envie quand même, je
oui,
pense.
Oui, oui, oui. mais j'ai dû me remettre à niveau. Enfin, c'était quelque chose de pas si évident.
De te remettre sur les rails de l'école un peu.
Ouais, ça a été... Fallait le refaire, mais je l'ai fait. Et puis voilà, moi je défends. Je valorise l'usine. Je me dis que c'est d'une tristesse sans nom, ce site. Mmh. Et qu'il y a une telle histoire qui a commencé à être faite par des universitaires avant moi, mais aujourd'hui c'est quand même un tournant où c'est pas la dernière chance pour l'usine, mais d'ici 5-6 ans, 10 ans, si rien n'est fait, il n'y aura plus rien.
Ouais.
Donc il faut travailler, c'est tout.
Tu es déjà venu à Radio Campus pour nous parler de projets que tu peux avoir avec tes élèves. Est-ce que tu en as actuellement en cours ?
Ah oui, on a un magnifique projet de MI avec Radio Campus, mais c'est pas moi, c'est Monsieur Carlu au lycée Branly. Mais on collabore ensemble sur le projet Minuit avant la nuit, le projet Les cuisines de minuit pour le festival Minuit avant la nuit, où mes élèves de restauration collective, avec des étudiants de master ETD, qui est éducation développement durable, tiennent un stand de restauration sur la zone pro du festival, où ils tiennent le stand au niveau uniquement les desserts depuis l'année dernière, et ils servent les bénévoles, les techniciens et les artistes.
D'accord.
Et grâce à leur compétence pro, qui est de faire des repas bio et locaux, et grâce à une subvention de la région, qu'on remercie au passage, ils ont accès au festival. Et sans ce projet, y a des élèves de CAP qui n'auraient jamais été à l'université, puisqu'ils collaborent avec des étudiants. Les étudiants viennent les voir, c'est l'apprentissage par les pairs, parce que les étudiants leur apprennent des choses, des choses aux étudiants parce qu'ils savent cuisiner de manière professionnelle. Mmh. Et le clou du spectacle, c'est au mois de juin, où... grâce au lycée Branly, on va avoir des B-Wraps, des contenants en tissu avec de la cire d'abeille, qui fait qu'on peut servir sans assiette en carton ou sans
plastique.
Voilà, on est en zéro plastique. Et puis, on risque de faire une exposition sur le site de ce travail. On va faire un fanzine, faut qu'on trouve un nom rigolo, mais on va faire un grand fanzine qu'on va afficher partout sur le site du festival.
Une exposition, du coup.
Une exposition, à partir de photos, de textes d'élèves. De dessin, puisqu'on a des élèves qui dessinent très bien et qui vont s'y mettre pour expliquer un peu c'est quoi leur vie scolaire et comment ils voient la musique, le monde de la musique.
D'accord, sur le monde de la musique principalement. Ok. Est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent avant de nous quitter ?
Il vous fallait sur Ulule et acheter le livre Le carnet de guerre des Ursulines.
Donc acheter le carnet de guerre des Ursulines.
Qui est prévu pour le mois de mai. Il y aura une conférence le 11 mai 2024 au musée de Picardie.
Au musée de Picardie, à quelle heure ?
14h ou 14h30. Et de mémoire, c'est le 11 mai 2024.
Le 11 mai 2024, 24. À 14h, au musée de Picardie. Très bien. Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire, tu as parlé du coup d'un site sur lequel on peut faire un don pour justement l'antépendium Picardie.
Alors, on a l'antépendium, il faut aller sur le site KissKissBankBank.
D'accord.
Où il y a le don pour l'achat, pour faire revenir cet antépendium à Amiens, puisque le Louvre laisse la priorité au musée de Picardie.
C'est cool.
Merci le Louvre. Et moi, je suis sur le site concurrent, je suis sur Ulule, qui est un site de vente, de financement participatif, où contre au minimum 19 euros, on a le livre et un super marque-page, et on a plusieurs paliers, et le dernier palier, on peut repartir avec un magnifique dessin, en plus du livre et des cartes postales, un magnifique dessin de David François, qui a dessiné le couvent des Ursulines.
D'accord. Eh bien, merci à toi d'être venu répondre à nos questions.
Merci beaucoup.
C'est déjà la fin de cette émission. On se quitte avec I Thought It Was You de Herbie Hancock. À bientôt.
Thank you.